C'est un monument, c'est aussi un lieu de musique, c'est un monument qui a 800 ans. Ce jeudi, on fête à Semur-en-Auxois, en Côte d'Or, les 800 ans de la collégiale Notre-Dame de Semur. Étienne Jacquot, alors il y a deux personnes qui m'intéressent en vous. C'est l'organiste, le musicien, mais c'est aussi le président des amis de cette collégiale de Semur-en-Auxois. Alors, que veut dire pour vous ces 800 ans de la collégiale?
Alors, 800 ans de la collégiale, ça se fête déjà, donc il y a le goût de la fête. Et puis, bien qu'amis de la collégiale ne nous appartient pas. Et donc, c'est aussi l'occasion de travailler avec d'autres associations patrimoniales de Semur, comme la Société des Sciences, comme les Amis de Semur, mais aussi les Amis de Monsieur Vincent. Et c'est l'occasion aussi donc de célébrer la fondation de la collégiale, il y a 800 ans, effectivement, entre les années 1220-1225, et puis de mettre en relief ce patrimoine sous tous ses angles, avec tous ceux qui s'intéressent au patrimoine, de le rendre sensible, de le faire comprendre, de le faire voir encore mieux que d'habitude, parce que c'est une belle église, mais on passe à côté et on ne regarde pas avec suffisamment de précision, ni même d'attention, ni même d'éléments de compréhension. Donc, les manifestations vont commencer par une messe célébrée par Monseigneur Antoine Herouard, qui est archevêque de Dijon. L'après-midi, il y aura un concert par le chœur grégorien de la cathédrale d'Auxerre, sous la direction de Joël Haddad. Et nous présenterons ce jour-là un livre d'art sur la collégiale, un livre de photos en noir et blanc, qui a été produit par trois artistes photographes de Semur qui travaillent sous le nom de Créa Nomade. Voilà. Mais en juin, nous aurons aussi la mise en place de la visite guidée numérique de l'église, qui a demandé énormément de travail. Alors, beaucoup de photos, c'est pourquoi le livre prolonge en fait ces photos-là. Beaucoup de photos et de textes auxquels on aura accès grâce au QR code que l'on flash. Et là, tout l'art a été déjà dans la prise de photos, mais aussi dans le choix des photos, de diriger le regard des visiteurs. Jusqu'à présent, nous engagions des jeunes qui faisaient la visite guidée, qui était préparée par l'animatrice à l'architecture au patrimoine de Semur, de Chéline Duchesne, qui est vice-présidente des Amis de la collégiale. Mais ce sera visible toute l'année, atteignable toute l'année. Voilà. Alors derrière ça, il y aura bien d'autres choses. Il y a des concerts d'orgue au mois de juillet. Il y aura une manifestation au moment où Notre-Dame de Paris va rouvrir, parce que le portail des blés, par exemple, a été très vraisemblablement sculpté par des sculpteurs de Notre-Dame. Et puis l'année prochaine, d'autres concerts et conférences.
Étienne Jacquot, j'ai écouté avec attention le président des Amis de la Collégiale, un peu peut-être amoureux du lieu aussi, je crois le sentir. Mais alors si je pose la même question du sens de ces 800 ans aux musiciens, la musique et le lieu.
Alors la musique et le lieu, il y a plusieurs choses à dire. Le 9 mai, je vais jouer un contrepoint triple, comme on dit, de l'école de Perrotin le Grand. Donc c'est 1200. Donc on est dans les clous au point de vue des dates. Hein. Donc il y a de la musique du Moyen-Âge. Mais la collégiale de Semur a un orgue au moins depuis le XVIe siècle. Et au XVIIe siècle, il y en avait deux. Il y avait un orgue à la place où est l'orgue actuel, mais il y avait aussi un orgue dans le transept. Et on connaît les facteurs d'orgue, on connaît les organistes, le nom des organistes. Donc il y a une grande tradition d'orgue dans cette église, et l'orgue actuel qui remplace un orgue qu'on a perdu, on ne sait pas comment, ça on ne le sait pas, c'est un orgue qu'on pourrait dire, si on était méchant, fait de briques et de brocs, mais c'est des belles briques et des beaux brocs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un buffet qui vient ou de Saint-Pierre d'Avallon ou de Chalon-sur-Marne. Il y a, pour le grand buffet, pour le petit buffet, d'une autre origine. Et dans le grand orgue, il y a des tuyaux de Karl Josef Ripp, qui était un facteur d'orgue allemand, d'Allemagne du Sud, qui a construit en Allemagne du Sud des orgues à la française au XVIIIe siècle, et qui est le constructeur de Saint-Bénigne à Dijon, qui vient d'être restauré. Aussi le facteur d'orgue de Dole, un orgue... Alors, je parle de Dole parce que ici aussi, il y a comme ça des couches dans cet orgue. On a des tuyaux du XVIIe siècle, on a des tuyaux de Ripp du XVIIIe. Calinet, les frères Calinet de Molo, dans le sud de l'Alsace, qui construisaient encore dans une facture très classique, mais avec des jeux romantiques, sont venus en 1833 pour restaurer cet orgue. Voilà. Il y a eu le facteur parisien Stolz à la fin du XIXe siècle, et puis il y a eu la grande restauration de 1990-1992 par Jean Delois en particulier, qui a trouvé une solution pour intégrer tous ces éléments et en faire un orgue unique qui a sa personnalité et qui sonne quand même très classique français.
Semble avoir un rôle particulier dans un monument comme celui-là.
L'orgue n'était pas fait pour les églises, puisque l'orgue tel qu'on le connaît aujourd'hui, on en a par exemple une représentation dans une mosaïque syrienne à Mariamine en 250 avant Jésus-Christ, avec des soufflets, avec un clavier, avec etc. Hein, avec un sommier et des tuyaux, bien sûr. On sait très bien que les Romains étaient très amoureux d'orgue, et qu'ils en avaient beaucoup, on en a retrouvé, j'en ai même vu un qui a été restauré. Et dans le diocèse de Dijon, il n'y a pas eu d'orgue jusqu'en 1848, parce que les Romains avaient des orgues de maison, mais aussi des orgues de cirque. Et dans les cirques, ces orgues-là, qui gueulaient très fort, paraît-il, servaient à couvrir le râle des chrétiens qu'on massacrait et qu'on donnait à manger aux lions. Donc ça rappelait les martyrs. L'orgue est arrivé dans l'église, mais il n'était pas destiné franchement à ça, hein. Donc c'est la première partie de ma réponse. Maintenant, c'est vrai que dans un grand édifice et avec beaucoup de techniques et de sens artistiques, on peut remplir une église. Par exemple, à Vézelay, il y a un orgue assez commun, hein. pas extraordinaire, plutôt un orgue de chœur qu'un grand orgue, qui remplit l'église, parce qu'il a été placé au bon endroit et parce qu'il a été harmonisé de telle sorte à ce qu'on entende. Et donc, c'est un instrument, c'est ma deuxième réponse, c'est un instrument apte à remplir un vaisseau, un endroit. Croyant ou non, peu importe, il y a là quelque chose à voir et qu'on n'a pas fini de voir. Comme disait André Breton, voir, mais voir. On n'a pas fini de poser ses yeux et de découvrir des choses en posant ses yeux sur ce monument qui, à mon avis, a été construit à la gloire de Dieu par les hommes qui l'ont construit et considéré comme tel par les croyants, mais qui est aussi une œuvre de l'homme. Et les hommes qui ont construit ça, je ne veux pas dire qu'ils se soient glorifiés, enfin, en tout cas, ils ont montré une humanité assez extraordinaire. Et ça, c'est intéressant à fêter dans les 800 ans.